Renaud Dourgeon, votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui dans ce studio avec Joseph Massescaron. Joseph Massescaron, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons ici, puisque nous avons déjà rencontré ce duo fameux maintenant d'enquêteurs. Nous avions parlé la première fois, c'était pour la falaise aux suicidés, nous étions à Étretat.
Absolument.
Ensuite, nous avons été à Roquebrune-sur-Argence avec la Croix des Ténèbres. Et nous étions à la fin à Baugé avec la Reine Jaune.
Alors c'est l'inverse, pardonnez-moi. Le second, c'était la Reine Jaune.
Et voilà, le troisième
jaune comme les mimosas, le soleil, la canicule, en effet. Et puis le second, c'est la Croix des Ténèbres, ce qui se passait en Anjou. L'Anjou qui détient, normalement, on considère l'Église, un morceau de la vraie croix.
Et en ce qui concerne Roquebrune, nous avions évoqué Dupont de Ligonnès à l'époque.
Absolument, tout à fait. C'est la dernière fois où on l'a vu, en tout cas.
On parle beaucoup de lui en ce moment. Bon,
oui, et d'une manière...
Un shérif américain pense l'avoir vu. Enfin bon, c'est peu probable.
J'y crois pas trop.
Moi non plus. Nous allons donc retrouver ce duo que vous allez nous présenter à nouveau. Ils dépendent du département S que vous avez créé, je présume.
Oui, ce département S n'existe pas, mais vous avez raison de poser la question, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs maintenant, hein, de plus en plus, qui me demandent, mais est-ce que ce département S existe ou pas ? S, c'est, en effet, avant, il avait un nom extrêmement administratif, hein, service d'études, de réflexion et de formation. Et ça ne me plaisait pas aux deux, parce que ce département est composé de deux membres, de l'archéologiste, de la chartiste Paul Nirsen. Mm-hmm. Paul Nirsen, maintenant je peux le dire, parce que ça a été écrit, Paul Nirsen étant l'anagramme d'Arsène Lupin, et de son compagnon, la personne qui travaille avec elle sur les enquêtes, qui est le capitaine de gendarmerie Guillaume Lassire.
Et nous les avions rencontrés la première fois à Étretat, oui. Célèbre avec Arsène Lupin et l'Aiguille Creuse.
Voilà, c'est pour ça, tout à fait. Et donc ce département S se trouve au 36 quai des Orfèvres, car... Là, je peux dire quand même un scoop aux personnes qui nous écoutent, c'est que le 36 quai des Orfèvres, il n'y a pratiquement que un peu plus d'un dixième de l'emplacement qui est occupé bien sûr par la BRI. Et tout le reste est inoccupé. Pourquoi ? Parce que c'est un imbroglio politico-administratif. Et donc j'imaginais que pendant cet imbroglio politico-administratif, eh bien, c'était glissé un département S.
Alors les policiers qui l'ont quitté sont au 36, mais d'un autre coin de Paris à s'éloigner.
Ils ont gardé la plaque par... Oui. Absolument.
Nous allons donc aujourd'hui parler... Nous allons déjà nous retrouver en premier à Lyon.
Oui.
Alors Lyon, c'est une ville qu'on ne trouve pas très souvent dans les romans policiers, ce qui est d'ailleurs dommage.
Tout à fait. Il y a des auteurs lyonnais de romans policiers. Hein. Il y en a un certain nombre. Mais Lyon est une ville bizarrement... de toute façon, en règle générale, Lyon est assez méconnu en France. Alors, comme j'ai l'esprit de contradiction, moi, ça fait à peu près 30 ans que je vais régulièrement à Lyon pour des reportages politiques ou autres. Et j'aime beaucoup cette ville. J'aime beaucoup cette ville. Et je trouve que c'est une ville qui est extrêmement riche dans le domaine, évidemment, bien sûr, de l'histoire et de la géographie.
Et à Lyon, il y a quelque chose déjà qui peut se prêter facilement au roman policier, ce sont les traboules, ces fameux passages,
oui,
qu'il faut peut-être expliquer aux Parisiens ou aux gens n'ayant jamais mis les pieds à Lyon.
Dans la construction c'est la construction lyonnaise, les traboules, c'est une partie importante, c'est près de la Croix-Rousse, et c'est ce Lyon à la fois d'hôtels particuliers, mais en même temps d'endroits où l'on travaille, ce qui permet de passer d'une rue à l'autre, et même parfois d'éviter de passer d'une rue à l'autre. C'est une expérience à faire, et c'est quelque chose de très beau, hein, qui est comme du point de vue architectural. Mais j'essaye de faire aussi connaître d'autres parties de Lyon, qui me sont chères, hein, bien sûr, comme l'île Barbe, que les gens connaissent un peu moins parce que en fait c'est un peu excentré des flux touristiques, même si c'est l'île Barbe est située dans le 9e arrondissement de Lyon, quand même dans Lyon même, et c'est une île extrêmement mystérieuse qui est occupée depuis des temps anciens, pré-chrétiens, pré-romains même. Et cette île, d'ailleurs, la légende veut qu'y soit enterré le Graal.
Il y a également une autre particularité architecturale qui est moins connue que les traboules, ce qu'on appelle les arêtes.
Voilà. Parce que, en fait, c'est tout le principe de ce roman. Ce roman, à chaque fois que j'écris un roman policier, je parle d'un fait vrai qui va me donner, qui va être la musique. Hein. C'est comme dans l'enfant de musical, il y a un thème musical et qui va ensuite se poursuivre. Là, ici, c'est la question du double. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais vous avez à peu près 40 000 personnes qui, en France, régulièrement sont sur des sites ou sur des forums, tout simplement pour chercher leur sosie, pour chercher leur double.
Grâce à ce livre, j'ai jeté un coup d'œil sur Facebook et j'ai trouvé ce site vraiment étonnant.
Et vous êtes un des sites, hein, parce qu'il y en a, vous avez trouvé un des sites.
Un des sites, oui,
absolument. Et c'est quelque chose d'extrêmement troublant. Donc, il y a toute une construction, évidemment, autour de la question du double maléfique, parce que les personnes qui cherchent également ce double le cherchent pour, disons, des raisons parfois de curiosité, mais aussi parfois pour de mauvaises raisons. Bien sûr, c'est les mauvaises raisons qui m'intéressent pour le roman policier. Et en fait, à partir de cette question du double, j'ai voulu camper cette action dans un lieu qui était propice à ça. Et ce lieu, c'est Lyon. Pourquoi ? Parce que Lyon est double. Vous l'avez rappelé, Lyon est entre Saône et Rhône. Lyon, c'est la colline où on prie, la colline où on travaille. C'est aussi la franc-maçonnerie et le catholicisme. C'est une ville immobile à la fois aussi et éruptive. Et puis là, vous venez d'en parler, il y a un Lyon de surface et beaucoup moins connu. Il y a un Lyon souterrain, mais extrêmement riche et d'ailleurs beaucoup plus riche que les catacombes de Paris.
C'est ce que j'allais dire. Mais il y a un endroit que vous citez également, qui était le lieu d'un grand fait divers il y a bien longtemps, c'est la Villa Gillet.
Voilà, c'est la Villa Gillet. Alors, ce n'est pas la Villa Gillet que l'on connaît aujourd'hui. Qui reçoit un certain nombre d'écrivains, notamment des écrivains internationaux, qui est assez connu en Europe. Non, ça appartenait à la même famille, c'est une autre villa, et dedans, il y a eu un fait divers qui a défrayé la chronique dans l'entre-deux-guerres, qui est un assassinat dans cette villa.
En 1925, très précisément.
Voilà, et qui a donné lieu d'ailleurs à un film remarquable.
Avec Louis Jouvet, de Christian Jacques.
Absolument.
Un revenant.
Ça, c'est quel film ? Alors là, franchement, c'est... Voilà. Donc, et d'ailleurs, on m'a invité à Lyon, parce qu'on va passer ce film... Je peux le dire, et que je vais justement, après, à partir de ce film, revenir à mon roman, les remplacer.
De toute façon, Louis Jouvet a fait relativement peu de films par rapport au théâtre, mais la plupart des films dans lesquels il est sont extraordinaires.
C'est à chaque fois.
Il y a quelques jours, on a repassé un autre de ses films, c'est Les Amoureux sont seuls au monde, ah oui, également, qui est aussi un film magnifique. Dans ce, vous avez donc abordé le sujet des sosies, et c'est vraiment au centre de l'ouvrage, et également... Ce qui est parfois un mystère, c'est la communication entre des jumeaux.
Oui, c'est une partie. Il y a beaucoup de personnes également qui m'ont dit « Mais est-ce que c'est vrai ce que vous racontez ?» C'est-à-dire le fait que parfois naissent en effet des jumeaux. Alors, tous les jumeaux ne sont pas semblables. Hein, il faut le dire également.
Là, il y a les monozygotes.
Voilà, bien sûr. Mais il y a dans cette gémellité, il y a parfois, beaucoup plus souvent qu'on ne pense, des accidents. Et par exemple, le fait que bien un jumeau absorbe l'autre. Voilà. Alors, je sais que ça a l'air extrêmement dans les films d'horreur, mais je le traite pas d'une manière horrifique, même si le roman est
assez angoissant.
Mais il arrive que des personnes, par exemple, à l'âge de 30 ou 40 ans, sentant de plus en plus une forme de point de côté et vont se faire opérer et retrouvent par exemple un point miniature qui est le point, je dirais presque un point fermé sur le néant, c'est-à-dire du jumeau. Et à partir de ce, je vous interromps parce qu'il y a un lecteur qui m'a déjà lu, parce que j'étais à Quai du Polar, donc j'ai eu un certain succès, ça se passe aussi à Lyon, hein, bien sûr. Donc, et il y a déjà une personne qui m'a dit, mais c'est troublant parce que dans ma famille, voilà, il y a une tante qui s'est arrivée à qui on a retiré une dent.
Alors, si tu expliques aussi le titre de l'ouvrage, c'est « Les remplacer ».
Oui, « Les remplacer ».
Alors, je rappelle aussi, parce que je ne l'ai pas encore signalé, que c'est paru aux Presses de la Cité. C'est très important, comme les précédents volumes, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Et ce côté, donc, de morceau, dirais-je, c'est peut-être pas très le mot exact d'un jumeau qui est dans l'autre, ça peut provoquer vraiment une forme de traumatisme de celui qui reste vivant.
Oui, ça provoque un traumatisme, comme là d'ailleurs, ça provoque un traumatisme. Et ce traumatisme, c'est sur ce traumatisme que va appuyer, que va jouer, parce que ces personnes sont au courant, une personne de la mafia, un représentant de la mafia à Lyon, où les mafias sont extrêmement actives et se mènent une lutte extrêmement
acharnée. On en parle rarement celle de Lyon pourtant. On en parle plus de celle de Marseille ou autre.
Oui, on en parle beaucoup plus, alors que Lyon est une sorte de... Il y a un moment donné, je crois que c'est le juge, qui est le juge Georges Falzon,
C'est un des personnages principaux de l'ouvrage.
Un des personnages principaux. Je peux dire, ce n'est pas un secret, que Georges Fenech, ancien juge, m'a un peu inspiré dans ce roman. Et en fait, ce juge décapite une partie de cette mafia lyonnaise, qui est en fait une mafia turco-lyonnaise, et il ne sait pas évidemment que il y a une personne, un frère, qui a échappé à ce massacre, à cette décapitation du réseau, et qui va monter une machination diabolique, et à partir justement du thème du double et de la gémellité. C'est ce que donne Le Remplacé.
On parle très souvent du cimetière du Père Lachaise à Paris, mais là, il y a aussi un cimetière qui a l'air très important à Lyon, qui est très ancien, où il y a des personnalités. C'est celui, le cimetière de Loyas.
Oui, alors là, j'étais très étonné, parce que je me suis aperçu que des personnes de Lyon, qui habitent Lyon, en fait, n'étaient jamais allées, mais vraiment simplement incidemment, au cimetière de Loyas. Et alors moi, j'ai un côté fox terrier hein, quand je suis sur un lieu où se déroule une enquête. J'aime bien, c'est un plaisir de gourmand et de gourmet, c'est faire connaître aux personnes même qui habitent des lieux. Ils se disent ah tiens, ça je ne savais pas, je ne connaissais pas. Le cimetière de Loyas, c'est un cimetière extraordinaire.
Il y a entre autres Édouard Herriot, qui fut un homme politique très célèbre.
Tout à fait, il y a Édouard Herriot, et vous avez
Monsieur Guimet, le fameux musée Guimet à Paris.
Le musée Guimet, vous avez Villermoz, qui est le père de la franc-maçonnerie européenne. Vous avez aussi un spirit qui a inspiré d'ailleurs...
Alan Kardec.
Qui est allé à la cour des tsars et qui a inspiré Rasputin. Enfin, vous avez des personnages. Et quand vous allez là-bas et que vous voyez à la fois... C'est ce que j'ai fait la visite, c'est le matin tôt, où il y a encore la brume à Lyon, là-dessus,
il n'y a personne.
Et vous voyez des constructions pharaonesques, et puis en même temps, juste à côté, des tombes tombant en désuétude, avec les grilles rouillées, brinque-ballantes, bouffées par le lierre, et que vous entendez en plus les corbeaux, ça c'est extraordinaire.
Nous allons écouter un communiqué, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Joseph Massescaron pour Les Remplacés, paru aux Presses de la Cité. C'est donc le nouveau volume dans lequel nous retrouvons nos deux héros, si l'on peut dire, puisqu'ils deviennent vraiment récurrents. Et en ce qui la concerne, elle va donc, Paul, elle va rencontrer son propre sosie, pratiquement. Mais ils ne vont pas tellement s'entendre, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle, tout de suite, son sosie, enfin la personne que
l'on
Comme
par hasard, travaillant dans la police.
Comme par hasard, travaillant dans la police. Le sosie, parce que souvent, nous ne sommes pas nous-mêmes... C'est intéressant, d'ailleurs, ça m'a assez fasciné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, par exemple, il y a vraiment des personnes que j'ai rencontrées... quand j'écrivais, et qui me disait ah tiens, c'est bizarre, vous avez votre sosie. Alors vous êtes sosie, vous m'avez dit, commissaire de police, je ne vais pas dire dans quel arrondissement de Paris, mais vraiment la personne vous ressemble, mais comme deux gouttes d'eau. Parce que généralement, en effet, la ressemblance, les autres voient la ressemblance que nous ne voyons absolument pas. Et là, c'est le cas de Paul qui. Elle a un mouvement de raidissement.
En plus, caractère, elles ne s'entendent pas vraiment non plus.
Et bien sûr, le caractère, elles ne s'entendent pas. Elles se jugent, elles se jaugent. Mais elles vont malheureusement, heureusement aussi, devoir cohabiter sur cette enquête.
Nous avons parlé très rapidement tout à l'heure des catacombes, et on va trouver des momies.
Oui, on va trouver trois personnes attachées, un peu comme... comme dans les catacombes à Palerme ou autres, qui sont attachés à un piton. Et, et qui porte un masque, et ces trois qui sont donc alignés dans ces catacombes, ça va provoquer un choc. Pourquoi ? Parce que on s'interroge d'abord à la manière dont ils ont pu être tués, et on va découvrir en fait quelque chose qui est réel, c'est que ils sont morts de douleur. Et parce qu'on peut mourir de douleur, on te dit souvent je suis mort de peur, bon ça c'est une plaisanterie, mais il y a parfois on provoque le muscle cardiaque quand c'est soudain, mais mourir de douleur, or on peut mourir de douleur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ces personnages apparemment n'ont aucun point commun. Et puis, progressivement, on va s'apercevoir que si ils ont un point commun qui peut paraître étrange, c'est que tous les trois étaient des personnes qui étaient sur le point de se faire rattraper par la patrouille, par le fisc, par la police judiciaire. Et voilà, c'est ça qui est les trois éléments.
On ne va pas trop en dire. Alors il y a quelque chose avec ce qui est merveilleux avec vos romans, c'est qu'on découvre toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Je n'avais jamais entendu parler de Tulpa, alors qu'il y a des milliers d'adaptes en France.
Oui, là aussi, je sais pas. Lorsque je parle de sosie, évidemment ça étonne. Mais Tulpa, oui. Alors Tulpa d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous vient du bouddhisme. Dans le bouddhisme, c'est quelque chose qui est assez codifié. C'est un élément spirituel qui est, pour aller vite, le fait que vous arrivez à vous détacher de vous-même par la réflexion, et vous détachant de vous-même, en fait, vous êtes presque le double de vous-même et vous créez un double. Bien. Or, tous ces éléments de philosophie orientale, de pensée orientale, aujourd'hui, elles ont été revues et corrigées dans une forme de subculture, et qui est très éloigné, très éloigné de l'origine, quoi. Donc ça donne quelque chose de curieux. Donc aujourd'hui, il y a des personnes sur des forums comme Reddit, par exemple, il y a des quantités de personnes qui recherchent là aussi à créer un tulpa, c'est-à-dire à créer à partir de soi-même un double.
Nous allons quitter Lyon pour partir en Turquie.
Voilà.
C'est quand même un voyage auquel on ne s'attend pas quand on commence à lire l'ouvrage.
C'est ça. C'est un aller-retour bref, mais c'est un aller-retour absolument nécessaire. C'est un aller-retour pour comprendre, parce qu'il y a dans ces scènes de crime, les deux héros vont retrouver à chaque fois une poupée différente, bien sûr. Et cette poupée, il va s'avérer qu'elle provient de Turquie, au nord d'Anatolia.
Combat homérique, pourrait-on dire, entre Guillaume et un autre personnage.
Oui, plein de personnages, oui, tout à fait. Vous allez devoir être mis à l'épreuve rudement. Et donc, en fait, ça, je peux dire cet élément, ça ne spoile pas du tout, ça ne détruit pas l'intrigue, c'est que en Turquie, vous avez un commerce, justement, c'est là où on retrouve la mafia, un commerce que la mafia entretient, qui consiste à ce que vous pouvez changer la forme de votre visage, de votre nez. Je parle pas simplement des implants capillaires, où beaucoup de gens vont. Ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. En fait, en réalité, c'est un vrai commerce de la mafia turque. Ça, c'est-à-dire tous les changements, vous pouvez prendre 15 cm de plus si vous êtes intéressé. On peut modeler vraiment complètement le visage et donc finalement créer des sosies.
Beaucoup de vos lecteurs réguliers de cette série doivent se poser la question, d'ailleurs vous en parlez pratiquement en post-face, c'est les relations entre les deux personnages.
Oui.
Est-ce amour, est-ce simplement travail ou ça va plus loin? Alors je n'ai pas dévoilé la fin qui est vraiment une chute incroyable, ça surtout pas, ça serait vraiment détruire tout, mais on peut se poser la question quand même de leur relation.
Oui, parce que au début, c'est-à-dire
déjà on va apprendre, oui, pour être tard, Pour quelle raison elle a essayé de se suicider, voilà, ce qui est déjà important.
C'est ça. C'est-à-dire pour quelle raison elle a essayé de se suicider, mais ce sont des amis d'enfance. Ce sont des amis d'enfance et puis après des amis d'adolescence qui se sont perdus de vue. Et ils vont former donc ce fameux duo, ce fameux département S. Mais beaucoup de personnes, d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il y a un moment donné, quand vous êtes en plus au quatrième opus, il faut le dire que le roman parfois vous échappe parce que les lecteurs veulent. Il y a à la fois le travail des deux héros, qui vous ne leur faites pas faire ce que vous voulez, et puis en même temps il y a le travail des lecteurs qui sont exigeants, et les lecteurs un certain nombre disent mais quand est-ce qu'ils vont conclure, parce que bien sûr il y a des sortes de frôlements, il y a des éléments, et là j'ai donné une réponse, voilà, une réponse que je trouve originale et vraiment originale et qui s'amorce dès le début.
Je présume que vous avez déjà en tête la suite de leurs aventures.
Oui, tout à fait. Je suis en train d'écrire.
Est-ce qu'on peut savoir au moins dans quelle région, peut-être pas du tout encore ?
Ah, c'est particulier parce que ce ne sera pas cette fois dans une région française. Mm-hmm. Ce sera en Louisiane.
Ah ! La Louisiane.
Voilà, la Louisiane, oui, tout à fait.
Encore un endroit, alors là, c'est pareil avec le vaudou, il y a tellement de choses un petit peu mystérieuses.
Il faut avoir
vu le film Dans la brume électrique, par exemple.
Dans la brume électrique. Et puis aussi Angel Heart.
C'est ce que j'allais dire, Angel Heart.
Extraordinaire.
Avec Louis Cipher, entre autres.
Où il y a une scène d'anthologie pour moi du cinéma, c'est la manière dont Louis Cipher, donc Al Pacino. Robert De Niro épluche un œuf. Et ça, c'est extraordinaire.
Ah non, c'est un film. Et je revois pratiquement la scène finale de l'ascenseur qui descend dans la terre, si l'on peut dire. Non, ça, c'est un film. Mais La brume électrique aussi.
Ah bah oui, c'est aussi ces deux films qui appartiennent à un roman policier.
Nous arrivons déjà, malheureusement, Joseph Massescaron. J'espère qu'on a donné l'envie, mais j'en suis persuadé aux auditeurs de devenir vos lecteurs. Très, très rapidement, est-ce que vous n'avez pas songé à scénariser pour que ça passe un jour, peut-être en film ou en série télé ?
Alors, on m'a abordé. Il y a les droits qui étaient achetés du premier. Je suis un peu circonspect parce que je connais des amis qui deux amis d'ailleurs, IES, notamment une qui dont les droits ont été achetés pour un roman pour Netflix et en fait elle passe un temps considérable où en permanence les personnes changent, les interlocuteurs changent, enfin c'est très très dur. Et pour l'instant, très franchement, là, je n'ai qu'un but, c'est continuer à écrire, c'est distraire les personnes, parce que les chapitres sont très très courts, très rythmés, et puis en même temps qu'une fois le livre refermé, vous vous dites, bah tiens, j'ai appris des choses dans le domaine de l'histoire, de la géographie, de la nourriture aussi, parce que pour moi c'est très important, et de l'architecture, de tout.
Nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons parlé des remplacés aux presses de la cité avec Joseph Massescaron. Nous étions à Lyon, nous allons y rester en chanson avec Benjamin Biolay, qui a écrit une chanson que j'ai découverte, c'est Lyon sur Saône. Mais pour le prochain ouvrage, je pense que le jazz et la Nouvelle-Orléans, on trouvera très facilement.
Oui.
Merci à vous.
C'est moi. Tant de rire en sentant le mort venir. Du moins, j'espère.
vie est en tâtons partiels jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère, j'espère revoir ma mère et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour en stylo pied. Ici ou pas loin de l'Italie, avec ceux que je chéris, chéris que j'aime. Et puis regarder pousser de lierre la guitare en bandoulière. Même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même, je serai dilettante mort de rire en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère, je serai dilettante à temps partiel jusqu'à l'autre bout.